Alors comme ça, tu travailles sur ton premier concours?
Comment tu le sais?
C'est notre cas. Elle me dit que tu travailles beaucoup.
Ah bon, elle t'a dit ça?
Oui.
C'est un concours sur le GPRU, à Porte de Montreuil, dans le cadre du Grand Paris. Je proposais une rue.
Une rue? Tu vas y arriver, Angèle. Ma fille.
Elle ressemble à quoi la ville du futur pour vous, Judith Davis? Votre ville du futur?
Ma ville du futur, elle ressemble à une ville où on peut se loger, où tout le monde peut se loger, où il y a des espaces verts qui sont pensés pour être au cœur du bitume. Aussi, voilà, il n'y a pas trop d'esplanades sur lesquelles refaites qui prétendent être des agora, alors que dès qu'on se réunit pour parler, on est viré. Quand on dit qu'il y a une agora, ben, en fait, on peut y aller. Et puis il y a des bancs, et c'est pas des bancs une place pour que les gens puissent pas s'y allonger. C'est une ville où il y a des rues, il y a des cafés, il y a des kiosques, il y a des magasins où on peut acheter à manger. Voilà, des choses simples à échelle humaine, humbles mais vivantes et où on peut être ensemble. Voilà.
Et vous, Salif Keïta, la ville idéale pour vous, elle est comment?
La ville idéale pour moi. Il n'y aura pas de voiture avec essence, ni de gasoil. Il y aura que des... Vraiment, moi, je dirais que c'est une ville vraiment naturelle, sans rien de maintenant, quoi. C'est parce que, non, pas de pollution, en tout cas. Et une ville où on peut trouver, où il y a toutes sortes de couleurs, plein de gens, mais de couleurs différentes. Et à manger 24 heures sur 24, parce que moi, je suis gourmand, et les déplacements se font pas vraiment comme maintenant, quoi. Il y a que de la verdure, une ville naturelle, où il y a la nature qui domine.
Et la ville où vous vous sentez le mieux, c'est laquelle?
La ville où je me sens mieux, moi je me sens mieux dans mon village.
À quelques kilomètres de Bamako?
De Bamako, ouais. Au bord du fleuve.
Dans la nature?
Ouais, dans la nature.
Et vous, Judith Davis?
La ville où je me sens le mieux? Ben, avec tous les paradoxes que ça comprend, je dirais Paris.
L'automobile particulière va devoir quitter la ville. Elle sera remplacée par des véhicules à forte contenance, des autobus, des cars, qui transporteront dans un confort qu'il est très facile de réaliser les gens, comme les transportent par exemple les métros, qui sont un outil exécrable de la civilisation moderne.
Il est 23h et est-ce que la révolte, ça se transmet? Est-ce que c'est un sentiment qui passe de parent à enfant? Et est-ce qu'à l'intérieur d'un être humain, parfois, ça disparaît? Judith Davis est une enfant des années 80. Dans son film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution », elle joue son double de fiction, Angèle. Ce double-là n'a pas vécu la Révolution, mais ses parents ont cru en mai 68 et au monde qui changeait. Elle tente de capter le moment des déceptions, celui où on n'a plus envie d'en parler, celui où on passe de « le monde, c'est nous qui le faisons » à « c'est le monde qui est comme ça ». Le moment où, sans se résigner, on passe à autre chose. C'est si facile de passer à autre chose. Et tout passe, sauf les questions d'Angèle, qui remet en question ce qui est donné. Pourquoi ça ne se passerait pas autrement ? Angèle tente de créer un collectif. Il vote l'enthousiasme obligatoire. Il s'observe et s'écoute, et pourtant ne se ressemble pas. Salif Keïta, lui, commence sa révolte avec la musique au Mali. Il ne vient pas d'une famille de griots, et pourtant il décide de chanter. Son dernier album s'appelle « Un autre blanc », ça parle de transmission, puisqu'il partage les chansons avec des nouvelles voix. La révolte, ça se passe donc de main en main, de voix en voix, pour que les enfants des parents qui y ont cru ne passent pas à autre chose, avant d'avoir pu comprendre que le monde, c'était eux qui allaient le faire. Il y aura donc la comédienne et réalisatrice Judith Davis. Son film « Tout ce qu'il me reste de la Révolution » vient de sortir dans les salles le 6 février. Il y aura le musicien Salif Keïta. Son nouvel et dernier album s'appelle « Un autre blanc » et sa tournée continue. Il sera le 13 avril à Orléans, le 16 avril à Paris, puis Biarritz, Angoulême, Moissac. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Un samedi soir qui commence par imaginer la ville de demain.
Je parle pas des beaux quartiers, parce que des beaux quartiers, on passe très facilement de Paris à la banlieue. Hein, c'est très facile, passer du 17e à Neuilly, passer du 16e à Boulogne, ça se fait tout seul, le périphérique est enterré, on passe au milieu des marronniers roses, ça se passe très bien.
Donc dans l'Ouest, c'est facile
dans
de passer...
Dans l'Ouest, c'est facile, c'est déjà gagné. Dans l'Est, par contre, où le périphérique n'est pas enterré, sauf très récemment à la Porte des Lilas, où la brèche entre les dernières maisons de Paris et les premières maisons des communes de banlieue est très large, plusieurs centaines de mètres. Là, il y a une vraie difficulté qui n'est pas du tout facile à surmonter. Et en vérité, là où il faudrait construire de façon radiale, quoi, de façon, oui, centripète ou fulge, ça dépend dans quel sens on roule. Ce qui se fait en ce moment, ce sont des espaces verts qui vont reconstituer une deuxième barrière. Parce que, pour des raisons qui tiennent, ces pauvres, ces émigrés, ces noirs, ces arabes, ces chômeurs, ces précaires, cette jeunesse prolétarisée, qu'on a eu tant de mal finalement à chasser de Paris. Les gens qui gouvernent cette ville n'ont sans doute pas très envie de les récupérer après avoir eu tant de mal à les mettre dehors. Donc il y a à la fois une question géographique et une question politique qui fait que le périphérique tient bon encore comme limite de Paris.
Quand le film commence, Judith Davis, Angèle, explique que son rêve c'est de devenir urbaniste et qu'elle a envie de changer le monde et que c'est par là que ça va passer. Est-ce que c'est un rêve d'adolescence à vous, devenir urbaniste ?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait de la philo quand j'étais juste après mon bac, et quand j'étais en terminale, je voyais bien que la philo me plaisait et tout ça. Mais j'ai toujours eu comme obsession de ne pas me limiter à la théorie, et j'avais très envie comme ça de trouver une retranscription pratique, concrète à tout ce que je pouvais penser, questionner par ailleurs. Et donc un jour j'étais dans la cuisine avec mon père et on réfléchit, voilà, comme on peut retrouver un père et sa fille dans une cuisine dans mon film. Et on réfléchissait comme ça, qu'est-ce qui pourrait réunir c'est la théorie et la pratique, et essayer de changer le monde, mais vraiment tout en le pensant. Et comme une bonne équation est sortie architecte, urbaniste. Et j'ai dit, très bien, je vais embrasser ce destin. Donc J'ai passé le concours pendant mes études de philo, que j'avais quand même envie de faire. J'ai passé le concours d'une école d'archi, sauf que j'ai tenu 3 mois, parce que c'était juste de la théorie, en fait. Vouloir incarner concrètement mes idées de cette manière-là, ça restait théorique. Et en fait, je ne sais pas découper droit et faire des hachures sans baver. Enfin, en tout cas, faire baver mon stylo, pour être plus précise. Et du coup, j'en ai trop bavé, pour filer la métaphore. Et je suis retournée en philo au bout de 3 mois, supplier la Sorbonne de me prendre en cours d'année. Voilà, donc c'était un échec cuisant.
Et là, on entendait la voix de l'écrivain Éric Hazan. Mm-hmm. Dans le film, il y a Angèle a certaines idées donc d'urbaniste. Elle propose en effet de relier Paris et la banlieue par une rue, ou en tout cas pas par justement un espace vert qui serait encore à nouveau un espace qui diviserait. Ça, c'est des idées que vous avez prises où, comment, en lisant?
En lisant Éric Hazan, en fait, moi, j'ai lu L'invention de Paris et surtout Paris sous tension, qui a été édité aux éditions La Fabrique d'Éric Hazan. Et parce que je cherchais, donc j'avais très envie d'incarner pour le coup mon héroïne de cette manière-là, essayer de voir comment penser la révolte s'inscrit dans nos paysages aujourd'hui, le paysage urbain, périurbain. La question de la limite, j'y suis particulièrement sensible. J'ai grandi sur les marais chauds dans le 20e, dans ces HLM qui ont été construits sur l'ancienne zone, donc plus tout à fait Paris, pas encore la banlieue. Et c'est vraiment Éric Hazan qui m'a donné, sans le savoir, parce que j'ai lu dans son livre, mais voilà, cette idée d'une rue, en fait, pour relier une idée simple, humble, et qui soit ni un espace vert qui constitue une deuxième limite, ni une grande esplanade qui continue de séparer, généralement glaciale, pensée comme étant une énième ersatz de la séparation.
Voilà. Et avant ce film, vous faites partie, Judith Davis, de la compagnie L'Avantage du Doute. Vous avez fait plusieurs spectacles, dont oui. Un spectacle qui avait ce même thème. Qu'est-ce qu'on fait après la Révolution? Qu'est-ce qu'il en reste, en tout cas, de 68?
Oui.
Pourquoi le spectacle, ça ne suffisait pas? Pourquoi vous aviez envie de continuer?
En fait, il y a donc un peu plus de 10 ans, on a co-créé un collectif avec Claire Dumas, Mélanie Bestel, Nadir Legrand et Simon Bacouche, qui sont tous acteurs dans le film. Et c'est une compagnie particulière, parce que c'est une compagnie d'acteurs, et d'acteurs qui se réunissent et qui ont envie d'être acteurs dans un sens peut-être plus large que être simplement interprète, et d'être vraiment acteur pour le coup. Donc notre idée était d'être aussi des auteurs, et non pas de monter des pièces du répertoire et d'essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir de contemporain, mais de partir du monde d'aujourd'hui, essayer de s'y confronter, d'enquêter et d'en faire du théâtre. Donc un mouvement inverse. Et du coup, ça, c'était déjà une manière de s'engager, de prendre part, de faire corps avec ce qu'allait devenir la pièce en tant qu'auteur et en tant que personne. Et du coup, notre première pièce thématisait pratiquement ce geste-là, puisque l'engagement politique est devenu, comme un geste inaugural, le thème de notre premier spectacle. Et c'était l'engagement politique à la lumière de 68, parce que dans le collectif, il y a Simon, qui avait 18 ans en 68, Simon qui joue le père d'Angèle. Et l'idée était de partir des histoires singulières pour trouver le croisement avec le politique ou le collectif, et pas l'inverse. Et moi, en fait, au départ, j'étais la plus réticente à faire ce petit détour par l'ombre du totem, l'ombre de 68. J'avais vraiment envie de parler de l'engagement politique à la lumière d'aujourd'hui et pas à la lumière de 68. J'étais très réticente à ça. Je dis, mais non, enfin, pourquoi encore faire ce détour? Il y en a assez. Et en fait, quand j'ai compris que je pouvais me servir de cette position-là pour en faire ma position dans le spectacle, ça m'a libérée. Et je me suis rendu compte après le spectacle que non seulement ça m'avait libérée, mais que j'en avais pas du tout fini avec cette histoire, et que j'avais vraiment envie de continuer à creuser tous les paradoxes et tout ce qui peut naître de cet endroit particulier d'une famille dont les parents étaient engagés et militants avant que la géométrie du monde ne se transforme comme elle a fait au début des années 90. Comment on fait famille quand on a passé toute sa vie à remettre en cause la famille comme valeur bourgeoise. Voilà. Je pensais qu'il y avait encore beaucoup de choses à en dire pour parler d'aujourd'hui, justement.
Et dans le film, Angèle, elle commence par parler de, en effet, la ville du futur, la ville solidaire, comment on peut l'imaginer. Et puis ensuite, on repart dans sa famille. En fait, elle retrouve son père, qui lui est celui qui, a priori, n'a rien renié, ni de ses idéaux, de la façon dont il a envie de vivre. Sa sœur est un peu différente, a peut-être abandonné certaines choses. Et puis sa mère est partie, justement, à la campagne, se réfugier parce que peut-être trop déçue par trop de choses. Vous, Salif Keïta, Vous avez pas mal fréquenté Montreuil. Et ouais. Il y a une grande communauté malienne à Montreuil. Mmh. En parlant de villes séparées par le périphérique ou de Paris, ou comment relier les choses, comment vous l'avez vécu quand vous êtes arrivé à Montreuil, cette circulation ou cette non-circulation, comment c'était en arrivant?
Moi, je suis arrivé à Montreuil en 87. Et vraiment, au début, je me promenais pas trop, mais après j'ai découvert Montreuil, j'ai pas été dépaysé vraiment avec Montreuil parce que.
Par rapport au Mali?
Par rapport au Mali. Et je trouve que Montreuil est une ville très cool, mais même la mairie, tout ça, les gens qui travaillent là-bas, c'est vraiment un endroit où c'est agréable de vivre, en tout cas, pour moi.
Il manque le fleuve quand même par rapport à votre village idéal
tout à l'heure. C'est vrai, mais il y a assez de parcs d'abord à Montreuil. Et il y a assez d'espace vert. Et moi, j'ai fait 30 ans là-bas. Hein. Et tous mes enfants sont nés là-bas, ils ne sont pas. J'adore Montreuil en tout cas.
Maintenant, vous êtes retourné au Mali.
Je suis entre le Mali et Montreuil en fait, parce que mes enfants sont toujours à Montreuil.
On va écouter un extrait du film Judith Davis entre Angèle et sa sœur.
Stéphane vient de faire une mission à la Sauvatech et recrute au call center.
Tu dis ça pour moi?
Bah ouais.
Donc, tu sais que je travaille? Tu sais que je me suis mise en indépendante, je continue à répondre à des appels d'offres?
Oui, peut-être, mais à un moment donné, il faut être pragmatique.
Merci, j'ai pas envie qu'une machine me donne des ordres.
Ah ça, je te comprends.
Oh, ça va, je suis désolée, le travail, c'est pas que le plaisir, c'est aussi le principe de réalité.
Ah bon, pourquoi?
Surtout quand il y en a pas.
Mais pourquoi?
Bah parce que c'est comme ça, tu sais très bien ce que je veux dire.
Non, je sais pas très bien ce que tu veux dire.
Bah parce que c'est normal, parce que tout le monde travaille. Oui,
ah, oui.
C'est normal.
Et pourquoi c'est...
Regarde papa, arrêtez de perdre sa vie à la gagner, ça la conduit directement à quoi? Elle me retraite.
Et voilà, faut mettre beaucoup de sel.
Fred. Pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est comme ça?
Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle? Les enfants à la crèche, dans la couche pleine de caca, là, ils sont contents, je peux t'assurer. Eux, ils sont dans le principe de plaisir.
Mais pourquoi?
Non, mais pourquoi?
Oui, pourquoi? Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix? Oui, pourquoi? C'est dingue, on peut plus la poser, la question du pourquoi?
Eh ben non, on peut plus la poser.
Et pourquoi?
Pendant l'extrait du film, vous êtes rendu compte que vous êtes arrivée au même moment à Montreuil, Judith Davis, avec Salif Keïta, en 87,
oui,
quand vous aviez 5 ans.
Ouais.
Alors là, on entendait cet extrait de Angèle et sa sœur qui n'ont pas tout à fait la même conception du travail, du plaisir. Pourquoi Angèle, elle s'adresse à ses employeurs en leur disant « Vous avez mangé vos enfants, vous êtes des ogres à cette génération-là de 68 qui a peut-être abandonné certaines idées ?»
Oui, en fait, le film s'ouvre sur une scène de licenciement. On voit Angèle au départ avec toutes ses bonnes intentions, toutes ses envies, justement, de penser une ville plus solidaire, une ville à échelle humaine, une ville qui ne soit pas que des mots de communication placardés sur des affiches de com pour mais vraiment fabriquer la ville vraiment. Et elle se fait tout de suite virer, donc c'est toujours cette idée de quelqu'un qui pense les choses, mais qui est confronté brutalement dans la réalité au licenciement, etc., etc. Enfin, c'est une succession comme ça de râteaux que Angèle se prend tout en voulant changer les choses. Et le film, la question n'est pas du tout de faire un procès ou de régler ses comptes. Il y a une galerie de personnages que j'ai essayé d'écrire de manière suffisamment grande pour pouvoir proposer des entrées, des identifications, différentes à chaque spectateur. Et effectivement, là, j'avais envie de m'attarder un petit peu sur un patron qui aurait été effectivement très engagé dans les années 68 et qui, lui, aurait succombé au confort. Je cite le film où, quand Angèle parle de son père, elle dit « Et lui n'a succombé ni au confort ni au désespoir », qui est un petit peu deux possibilités quand on, quand on voit ce qu'ont donné la fin des utopies, ou en tout cas la grande déception de ne pas réussir à faire plus. Et j'ai même amusé à dessiner un type avec son col Mao, ses bonnes intentions, son velouto servi par sa secrétaire, qui lui apporte son velouto avec la sucrète, parce que bien sûr il est au régime, parce qu'il est, voilà, c'est un peu compliqué, il a eu des bonnes idées, mais c'était il y a longtemps, et aujourd'hui il a certainement deux pensions alimentaires, une maison à rembourser à l'île de Ré, et surtout il fait son régime. Donc j'avais envie, avec humour, de parler un peu de cette mollesse-là et de l'embourgeoisement, mais c'est une porte d'entrée, d'ailleurs c'est le seul personnage qui raconte ça, mais il est suffisamment fort. Et Angèle, elle pète un câble parce qu'elle en a marre qu'on soit condescendant avec sa génération. Notre génération, on porte ça depuis toujours. Ah bah c'est bien, mais vous allumez des petits feux, c'est pas mal, mais c'est pas comme nous, c'est pas comme à notre époque. Enfin voilà, on a entendu cette litanie depuis qu'on est en âge de manifester. On est toujours soit comparé justement à c'est le nouveau 68, soit c'est jamais assez. Et elle parle d'ogres et elle les compare même à Michael Jackson en disant qu'ils ont dévoré, refait, reclus, affamé de jeunesse. Et en fait, au bout d'un moment, elle dit n'importe quoi parce que, encore une fois, dans le film, j'essaie jamais de dire il y a les gentils, les méchants et il y a personne n'incarne le bien. Elle s'en mêle les pieds dans le tapis aussi et elle est tellement en colère qu'elle finit par dire un peu des bêtises.
Et elle a l'impression que sa mère est partie à la campagne, les a laissés, parce que justement, il y avait ce rejet aussi de la famille classique bourgeoise, et elle se rendra compte que c'était pas si simple que ça.
Oui, évidemment, encore une fois, j'essaie d'écrire des personnages qui incarnent les dilemmes auxquels on est tous confrontés aujourd'hui, que ça soit vivre dans une grande ville, faire le choix à travers son travail, est-ce qu'on fait le choix de l'entreprise et à quoi on tourne le dos, est-ce qu'on fait le choix au contraire de croire dans son travail, quitte à embrasser quand même une vie extrêmement pauvre. Enfin, voilà, tous ces dilemmes-là, on les traverse pour notre génération. La génération d'avant, on a traversé d'autres. Vincent, le patron, incarne certains dilemmes. Et à un moment donné, effectivement, est-ce qu'on essaie de vivre autrement? Comment? Et sans en dévoiler trop, il y a peut-être un moment où la mère a fait des choix en rupture avec la société de consommation. Mais qui sont difficiles à comprendre sur le plan familial, pour le coup.
En tout cas, Angèle, elle essaie de renouer avec un certain engagement de ses parents, où on sent qu'il lui échappe un peu aussi.
Oui, elle se vit vraiment comme une héritière et elle a envie de continuer le combat là où elle a la sensation qu'il a été laissé, notamment par sa mère. Et il y a quelque chose d'anachronique dans ce personnage. Elle rêve, en fait, quelque part, d'être dans les années 70. Elle rêve que l'engagement soit à portée de main, d'embrasser la cause révolutionnaire comme on sort dans la rue et se dire qu'il y a ce grand horizon qui nous prend tous en charge et tous les problèmes des femmes, des homosexuels, de l'immigration, tout va se résoudre dans ce grand horizon, sauf qu'aujourd'hui, tout a éclaté et on est dans un monde où l'engagement politique est sur une pluralité de fronts infinie et on est dans une autre pensée, et notamment un des combats importants à mener est sur le plan, je pense, du récit d'une autre société, sur le plan de l'imaginaire en tout cas. Et voilà, elle a un côté un peu anachronique et le parcours du film, c'est sa quête politique qui va devenir une quête personnelle pour redevenir une quête politique plus juste, plus aiguë, avec un regard sur le monde plus contemporain qui va lui permettre de voir les gens dans leur complexité, pas les renvoyer à des clichés aussi. J'essaie d'éviter que les personnages soient que des archétypes où on a le beau-frère de droite, la belle-sœur de gauche, qui s'engueule à Noël, et chacun repart dans sa réalité, comme ça peut nous arriver parfois. J'essaie que les choses soient plus transversales, plus complexes que ça, quoi.
Et les moments intéressants, c'est aussi les moments de collectif, où elle essaie, en tout cas, de créer un collectif avec des gens très différents. Ils se retrouvent dans une salle de classe, à une petite dizaine, à essayer de réfléchir à des idées, ce qu'ils pourraient mettre en place. C'est assez drôle par moment parce qu'on se rend compte que c'est pas si facile d'avoir une parole, d'échanger et puis de construire. Mais en même temps, c'est une vraie tentative de recréer quelque chose. Et petit à petit, le long du film, il y a des choses qui se tissent entre les gens de ce collectif.
Bah oui, tout à fait. C'est vrai que ça passe par la comédie, parce que si on essaie d'avoir un propos engagé et qu'on ne part pas de notre autodérision, ça peut très vite devenir donneur de leçons. Enfin voilà, il y a vraiment cette crainte-là, j'imagine, comme spectateur, que j'ai moi-même. Donc effectivement, ce collectif de parole, déjà, ce qui est important de dire, c'est que je prends l'action politique en amont de l'action, donc au moment de la parole, au moment de la reprise de parole. Ce que j'essaie de défendre, justement, parce que ce collectif est mixte, et vous pouvez voir dans le film pourquoi, il y a un conseiller financier comme celui qu'on croise quand on va dans notre agence bancaire, bon voilà. Il y a un ancien punk, enfin il y a des gens très différents comme ça. C'est le moment de la reprise de parole, essayer de redéfinir ensemble les mots qu'on utilise et essayer de voir si une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces mots-là, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord. C'est important parce que je pense que notre langage lui-même est menacé, en fait. Il est menacé parce que les mots aussi deviennent des objets de marchandise, qu'ils sont vendus, lavés de leur sens, revendus à des agences de com. Enfin, c'est assez difficile, du coup, de penser un monde quand même nos mots sont attaqués. Donc, il y a vraiment cette importance-là de la reprise de parole. Et j'avais...
Et on sent chez la sœur, le personnage de la sœur, d'ailleurs, à quel point le travail, le monde du travail a oui. atteint... sa vie privée ou la façon,
exactement.
En effet, son langage, son imaginaire.
Ça
la
parle
façon...
en elle, ouais, tout à fait. Et ben, oui, tout à fait. J'avais vraiment envie de parler de l'époque d'aujourd'hui à travers une peinture du monde du travail, mais pas sur place, pas dans des bureaux, mais de voir comment toutes ces nouvelles normes, tout ce nouveau langage, cette nouvelle langue, ces aplanissements des conflits, ces évaluations 360, en fait, contaminent le rapport au corps, le rapport à l'autre, le rapport au couple, le rapport à la famille, le rapport à soi. Et
elle a même changé son prénom.
Elle a même changé son prénom.
Pour le travail.
Pour le travail, oui, tout à fait. Parce qu'elle s'appelle Noutka. Et que Noutka, c'est, comme dit son mari, une lubie de Baba Cool. Parce que c'est le nom d'une tribu indienne. Donc elle se fait appeler Béa. Parce que c'est plus simple pour dicter son mail.
La révolte, c'est une des valeurs que vous avez essayé de transmettre à votre fille, à Isabelle ?
Ouais, c'est compliqué de transmettre la révolte, non ?
L'esprit ?
Non, mais ça, elle avait des prédispositions, de toute façon. Donc, elle se débrouille là-dessus. Et... Je ne sais pas si on transmet la révolte. On ne sait rien. Mais je reste... On me traite souvent d'agité et d'énervé. Je reste un agité et un énervé. Oui, ça, j'ai toujours été un agité et un énervé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne lit pas le journal tranquillement, qui ne regarde pas les informations tranquillement, qui se met en colère, qui prend parti... Et j'espère ne pas trop changer. Alors maintenant que je suis élu, j'ai un bon fauteuil comme ça, je me mets en colère même dans les assemblées, ce qui est bien. Donc,
Mais l'esprit critique, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de développer chez vos enfants ?
Il n'y a que ça de possible. Il n'y a que ça de possible. Non ? Ce qu'on apprend...
Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle ?
Ce qu'on apprend à l'école, qu'on y va, ce que ne fait pas ma fille.
Je pense que quand on... J'ai vécu au milieu de donc 3 68 heures. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'esprit critique ne peut qu'être développé. C'est... Puisque toute discussion devient totalement délirante, mais sur n'importe quoi, hein, ça a toujours créé des polémiques incroyables. Donc forcément, l'esprit critique m'a été transmis. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
Et vous arrivez encore de rêver ensemble ?
À quoi ?
C'était ça, 68, non ? C'était les... Vous rêviez beaucoup ? Vous vouliez changer le monde tout de suite, tout ça ?
Ouais. Moi, je veux toujours. Mais on parle plus tout à fait les mêmes choses. Mais cela dit, 68, dans toutes les confusions, dans toutes les conneries de l'époque... Au milieu de tout ça, il y avait quand même... Le refus d'accepter, le refus, l'idée que les choses devaient forcément changer. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Ah, ça c'était bien ça.
Mais aujourd'hui, qu'en est-il quand vous discutez avec Isabelle, justement ? Est-ce que la volonté de changer le monde est toujours là ou...
Un extrait des Nuits Magnétiques en 1998 sur l'héritage de 68. Judith Davis, vous, il y a eu des discussions comme ça à l'intérieur de votre famille quand vous avez grandi ?
Ouais, il y a eu beaucoup de discussions Il y a eu beaucoup de discussions dans ma famille. C'était tout le temps des discussions sur l'engagement, sur... Le politique était vraiment une manière de s'adresser une manière quotidienne de s'adresser les uns aux autres.
Et Angèle qui cherche à recréer un collectif dans le film, vous Judith Davis, il y a des collectifs que vous traversez, que vous avez traversé ces dernières années et où vous trouvez cet espace de parole, d'imaginaire, de reconstruction.
Déjà, l'avantage du doute, qui est la compagnie de théâtre qu'on a cofondée, je crois que c'est essayer de répondre à cette violence qu'on ressent tous, de pas pouvoir être plus avec. Je pense que l'être humain peut pas être réduit à son individualité, peut pas être réduit à l'aspect, ne peut pas être que en compétition les uns avec les autres, ne peut pas être que le meilleur gagne. C'est pas possible, en fait. On a tous un besoin naturel, en fait, d'être avec et je pense que qu'on le sache comme Angèle et qu'on en ait la conscience, la culture, les mots pour dire voilà, moi je voudrais pouvoir faire plus société, ou qu'on n'en ait pas conscience et comme un Stéphane dans mon film qui travaille en entreprise et qui est, ou la sœur qui est dans cette espèce de norme, etc. C'est une souffrance plus sourde, une colère peut-être plus refoulée, mais je pense qu'il y a quelque chose de notre humanité qui ne peut pas se révéler si on ne construit pas ensemble. Donc, créer l'avantage du doute, c'était une manière de trouver une forme de cohérence dans notre quotidien, dans ce quotidien qui est vraiment violent, où on n'arrive pas à être davantage en accord avec qui on est toujours confronté à des dilemmes, des contradictions, et c'est vraiment sur nos épaules d'individus, parce que le politique a vraiment déserté nos quotidiens. Donc, pour répondre à... Ouais, j'essaie dès que je ressens... qu'il y a de la parole qui s'échange, que ce soit Nuit Debout, les ZAD, j'essaie d'être très attentive à toutes les formes de collectifs. Après, le mien, le nôtre, me prend déjà beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est un vrai choix de travailler sans chef. Ça a des conséquences économiques en termes de temps, de travail. C'est une façon de vivre, en fait.
C'est Salif Keïta. Est-ce que c'est facile de transmettre à ses enfants ces combats, ces luttes, ces révoltes? Est-ce que ça se transmet?
Même si ça ne se transmet pas, ça s'explique. C'est bien d'expliquer aux enfants ce que tu as traversé et les avantages et les inconvénients et les façons de faire, les meilleures façons de faire, et l'expérience. Je crois que c'est très important, ça.
Et vous l'avez transmis à vos enfants?
J'ai une fille qui fait la course de 400 mètres j'étais très inquiet.
Qui est championne olympique.
Qui est championne olympique et je suis fier d'elle aujourd'hui parce que je crois qu'elle a vu que je me suis battu et elle a fait autant. Et c'est bien.
Et pourquoi vous dites que vous étiez inquiet?
Parce que l'environnement de naissance ne lui convenait pas parce que j'étais inquiet. C'est pas facile de traverser un milieu qui ne sait pas ce que c'est que l'albinisme, comment ça vient, et qui est un milieu qui a des préjugés, qui a des mauvaises croyances, qui raconte des conneries sur la vie des albinos et qui n'arrange pas la vie des albinos. Donc j'étais très inquiet pour elle. Et vraiment, et c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai amenée ici.
On va écouter un premier morceau de votre album.
D'accord.
Salif Keïta.
Merci.
Salif Keïta a presque 70 ans et il a dit que c'était le dernier sur l'album Un autre blanc. Il y a des duos, des invitations, de la transmission entre lui et ceux qu'il appelle les nouveaux griots, comme le jeune MHD. Comme la voix était un peu fragile aujourd'hui et que vous êtes un peu souffrant, Salif Keïta, mais que vous êtes venu quand même nous parler en studio, on va écouter un morceau de l'album, au lieu que vous le chantiez en direct dans le studio avec votre guitare.
D'accord.
Pour vous préserver la voix. Et le premier morceau s'appelle Tonton.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi ce morceau pour ce soir?
Tonton est une appellation. Généralement, les épouses appellent leur mari tonton chez nous. C'est une façon de respect, un nom de respect. Respectueux, tonton. Au lieu d'appeler son mari par le nom, elle l'appelle tonton.
Je suis Judith Davis. Nous sommes en studio avec Salif Keïta. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
Est-ce que la première révolte, la première révolution pour vous, c'était justement de faire de la musique au tout début?
Oui, tout à fait. Parce que je crois que j'avais le choix entre deux choses, ou être délinquant ou être musicien. Parce que mes parents ne voulaient pas que, d'abord que je cultive, parce que ma peau, avec l'albinisme, je serais exposé au cancer de peau. Quand même, ils ont su ça. Mais ils ne voulaient pas aussi que je sois musicien, artiste, chanteur, parce que chez nous, c'est mal vu de voir un noble qui chante. Mais je devrais assumer, parce que si je suis différent, il faut que j'assume ma différence d'une manière ou d'une autre. Donc c'était une révolte.
Donc c'était désobéir aux parents,
ouais.
La musique.
Ouais, un peu, oui.
Et tout à l'heure, on parlait de 68. Je crois qu'en 68, vous arrivez à Bamako, vous, et vous n'aviez pas pensé à instituteur à un moment donné?
Oui, j'étais instituteur, mais j'ai étudié pour être instituteur. Mais l'administration malienne n'a pas voulu m'intégrer dans l'enseignement parce que ils ont dit que je fais peur aux enfants parce que j'étais trop différent.
À cause de l'albinisme?
Ah ben, à cause de l'albinisme.
Et c'est pour ça que vous avez abandonné instituteur?
Oui, j'ai abandonné parce que je n'ai pas pu. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que je travaille, il fallait que je... Je ne voulais plus être à la charge de mes parents. Donc, j'ai voulu chercher une manière de vivre. C'était la musique.
Et pourquoi vous avez décidé que ce serait le dernier disque, Un autre blanc?
C'est mon dernier album D'abord, ce n'est plus le moment de faire des albums. Et les gens ne téléchargent pas les albums. Ils téléchargent des morceaux. Et donc, ils peuvent télécharger 2 ou 3, maximum 4 morceaux, mais ils ne téléchargent pas 10 morceaux. Donc, pour moi, j'ai vu que c'était pas trop intelligent de faire encore des disques, des albums. Et d'autre part, c'est que ça fait 50 ans que je travaille, que je fais des albums, et je suis fatigué. Et je crois que j'ai droit au repos, parce que la musique est un métier où il n'y a pas de repos. Que tu sois en studio, que tu sois sur scène, ou bien même à la maison, tu es avec ta guitare, et 24 heures sur 24, si tu ne dors pas, tu es dans la musique. Donc c'est très prenant. Donc, au bout d'un certain moment, il est nécessaire de prendre du repos.
Et l'album, il s'appelle Un autre blanc.
Oui.
C'est vous l'autre blanc?
Oui, c'est moi l'autre blanc. Parce que je suis blanc, de père noir et de maman noire. Et ma couleur noire, c'est mon sang. Mon sang est noir. Et j'ai quand même, je suis né en Afrique et je suis africain. Je suis très différent, quoi. C'est pour dire que je suis différent, que je suis un albinos, voilà.
Et cette différence dont vous parlez depuis longtemps maintenant, comment on l'apprivoise avec le temps?
Bon, maintenant, ma chance a été que je suis un artiste, et donc je peux passer inaperçu seulement parce que je suis chanteur, que les gens me connaissent. Mais les miens n'ont pas cette facilité partout, parce que ils sont très discriminés, même ils subissent des sacrifices humains, ils sont vraiment stigmatisés, leur vie est toujours en danger. Donc c'est pas facile, et c'est d'ailleurs pour ça que je me bats pour que leur vie soit mieux que ça.
Qu'est-ce qui a évolué? Parce qu'on parlait de lutte tout à l'heure, de combat. Mm-hmm. Vous, ça a été un des combats, en effet, que vous avez mené, que vous menez encore. Vous avez une fondation pour essayer d'améliorer la condition mm-hmm. des enfants, des gens mm-hmm. Albinos en Afrique. Qu'est-ce qui a évolué depuis toutes ces années?
Depuis toutes ces années, ce qui a évolué. Les albinos, d'abord, avaient peur de se rencontrer. Ils avaient même peur de se parler. Parce qu'ils croyaient que quand ils se rassemblaient, les gens qui cherchaient les albinos, c'était une occasion pour eux pour venir prendre des gens, les prendre. Et après, maintenant, ils se voient, ils se fréquentent, ils forment des associations entre eux. Et aussi, nous, on essaie chaque fois de leur donner, pendant les moments très chauds, de leur procurer des crèmes solaires, parce que ils contractent vite le cancer de peau à l'âge de 15 ans. Il fait très chaud chez nous. Et pas chez nous seulement, mais la plupart du temps, les Africains, ils sont au champ, ils sont pas épargnés par les parents souvent pour les travaux champêtres. Donc ils vont au champ et on leur procure des crèmes solaires. Et aussi, nous travaillons beaucoup pour leur sécurité, pour dissuader quand même les gens qui pratiquent des mauvaises croyances sur eux et qui les prennent et qui les sacrifient. Tels que la petite Ramata qui a été sacrifiée à l'âge de 5 ans, où qui a été arrachée dans les mains de sa maman pour être tuée. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Et nous travaillons maintenant, je crois que ça se fait, mais d'une façon très secrète maintenant, parce que ils s'en cachaient par avant, mais maintenant je crois qu'ils ont peur de faire ça. Et puis aussi, on a tout fait pour que les Nations Unies nous aident, et les Nations Unies ont décrété le 13 juin comme journée de l'albinisme. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment aidé, parce que les gens ont senti que, attention, et l'affaire des albinos commence à prendre de l'ampleur. Et vaut mieux chercher d'autres solutions, voilà.
Et en quoi ça a aidé ou ça a pu accompagner ces luttes, la musique, celle-ci et puis d'autres luttes citoyennes que vous avez menées au Mali?
La musique est un élément transmetteur par lequel on peut passer des messages. On peut dire qu'on a mal à la tête ou on peut dire qu'on n'aime pas ça. Où on peut remplacer ceux qui n'ont pas l'opportunité d'expliquer aux gens de quoi ils souffrent, où on peut parler à la place des sourds, la place des muets, et qui n'ont pas la popularité, qui n'ont pas l'occasion de dire au public ou bien de faire savoir de quoi ils souffrent. Et je crois que la musique m'a donné la popularité, beaucoup d'amour aussi autour de moi, et donc qui me permet de transmettre ces messages aux gens.
Et c'est quoi ce mot dégation?
Hein?
Dégation.
Dégation.
Un jour vous avez parlé de ce mot, du dégât dans la tradition.
Dégation. Dégation, tradition. Je crois que la tradition n'est pas toujours ce qu'il faut suivre. Il y a des choses qui marchent dans la tradition, peut-être, mais tout ne marche pas. N'est-ce pas?
Et on parlait de collectif. Un de vos précédents albums s'appelait Talé.
Oui.
Ça voulait dire quoi, ça?
Talé, j'ai dit Talé, ça veut dire possession. Le monde est devenu tellement protecteur. Tout le monde se protège. Tout le monde se méfie. Tout le monde veut se mettre à l'abri. Jusqu'au point où l'homme est en train de s'éloigner de l'humanité, de l'humanisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Trop poussé. Chacun veut se mettre à l'abri. Chacun veut tirer la sécurité vers lui, sans oublier que la sécurité de tout le monde peut être la sécurité de chacun.
Est-ce que c'est important, là, on parlait de transmission, dans ce nouvel album, enfin dans cet album Un autre blanc, il y a des invitations que vous avez faites à des plus jeunes. Est-ce que c'est important pour vous, ce dialogue avec ceux que vous appelez les nouveaux griots, ceux qui arrivent après vous?
Tout à fait. Ce n'est plus la même façon qu'on faisait la musique, c'est la parole. Et ces jeunes gens, vraiment, n'ont pas la langue dans leur poche. Et ils n'ont pas peur. Et moi, je les appelle les nouveaux griots, qui sont en train d'éduquer leur génération et même les générations anciennes. Et moi, je leur attache beaucoup d'importance.
Vous pensez à qui, pour en citer quelques-uns?
MHD, par exemple, que j'aime bien. Je suis désolé que maintenant il a un problème. Je suis sûr et certain que quand il va s'en sortir, je vais lui tirer les oreilles. Mais j'aime beaucoup ce garçon qui n'écrit pas du n'importe quoi. Il n'a pas oublié son origine. Et c'est très important. Pour ne parler que de lui parmi tant d'autres qui écrivent bien et qui sont en train d'éduquer cette génération d'aujourd'hui.
On va écouter un autre morceau de l'album qui s'appelle Diawarafa.
Diawarafa, oui. Et Diawarafa, je remercie un ami qui m'a beaucoup supporté, qui a été très gentil avec moi. Et quand on donne au revoir, on salue les gens, on remercie les gens qui t'ont aidé. Ça, c'est notre façon de faire chez nous. On fait une dédicace pour eux. Et Diawarafa a été dédicacé pour Brahma Diawara.
Tumadale Bani Marakake. Comme il en manquait. Otekani konori kono mafa ndakaba nanko o alani marakake kai yarafa shikamala yarafa mari yarafa mari yarafa nyamega yarafa haimatu yarafa yere yarafa yene Yawarala
Anala Marakaya.
Oh, you may tell him any. Ape Yawarala.
Il est Marakadi.
Ape Yawarala. Ousmane, il est Mandi. Ape Yawarala.
Anala Marakaya.
Ape Yawarala. Jawarala, ah Ali Jalimani, Abe Jawarala,
Anala Marakaya,
Abe Jawarala, Amari Jalimani, Abe Jawarala,
il est Marakadi,
Amiru Sabi Filani, Dakabadande, oh Alanole. Metuelie oh kono
daga banako il est marakadi
Salif Keita, c'est vrai qu'on vous a dit ah mais la retraite c'est bien, vous allez pouvoir revenir à Dieu, avoir plus de temps pour la religion maintenant que vous arrêtez la musique.
Moi, pas vraiment pour seulement la religion, pour me reposer. Comme j'ai dit, ce métier, il est très possessif. Quand il est dedans, tu ne te reposes pas.
Et ce serait une retraite à la campagne, alors?
Ouais, tout à fait.
Dans j'adore le village natal.
Ouais. En train de pêcher, peut-être sauver les gens que je veux prendre pour cultiver, parce que moi-même, je ne peux pas. C'est sûr, mais je serais beaucoup près de l'agriculture et de la nature.
Parce que vous avez des terres là-bas. Mm-hmm,
oui, j'ai des terres, oui.
Et pourquoi vous avez envie de repartir vers la terre, l'agriculture, qui est le métier de vos parents finalement?
Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que mes parents n'ont jamais goûté le fait que je sois musicien. Ils n'ont pas aimé ça vraiment.
Mais maintenant, vous allez faire les deux. Vous êtes musicien et vous allez cultiver la terre.
Oui, mais je vais toujours faire la musique. Je serai avec ma première femme, qui est ma guitare.
Mais ça a défilé, ça a défilé les saisons, les années. C'est vertigineux. Une vie, ça peut passer vite. Enfin, il y a certaines choses qui vont trop vite, puis peut-être d'autres choses qui ne vont pas assez vite. Dans l'ensemble, ça va trop vite. Ça va trop vite. Je sais pas, on n'a pas le temps de. On n'a pas presque le temps de vivre tout de suite. Ça défile. C'est vrai, quand on a beaucoup d'occupations, bon, ça se succède. Les jours après les jours, les semaines après les semaines, c'est vertigineux, je trouve. Considérable, considérable. Formidable. Formidable. Ah oui, c'était sensationnel. C'était très très joli, c'était pas mal, c'était bien. Oh, elles auraient dit ça fait vieux, ça. Je
chante, ça me fait un genre de cœur.
Oh, mais non, parce que le genre il aime pas se
coucher sous la feuille. Bon.
Ça, je chante, mais.
En goutte de sang.
Chanter, mais quoi?
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte.
Il faut aussi. Je répète les mêmes choses, je ne sais vraiment pas le tout par cœur. Hein.
Comme le temps passe vite.
Alors, comme le temps passe, c'est fou. Lorsque je suis auprès de vous. La 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 la.
Ah oui, c'est toutes les chansons de ma jeunesse.
C'était la pièce Mouche de Dominique Petitgand, Judith Davis. Angèle, dans votre film, Tout ce qu'il me reste de la Révolution, quand elle se balade et qu'elle essaie de convaincre les gens, en tout cas qu'elle parle de sa colère, elle a quelques livres avec elle, dont Walt Whitman. Pourquoi ça vous accompagne ou ça l'accompagne?
Walt Whitman... C'est vrai que moi, dans les moments les plus difficiles, je lis Walt Whitman et ça, c'est un. J'aime à dire que c'est un remède contre le désespoir. Il y a une telle vitalité en fait. Ça me reconnecte à notre vitalité la plus profonde, la plus joyeuse. Il y a un être là chez Walt Whitman, présent aux éléments, aux autres, à son propre corps, qui est une incarnation et une force, et vraiment une joie que à laquelle j'aspire, et je trouve que ça fait du bien de se le lire, de le lire aux autres, et ça me plaît.
Est-ce que comme Angèle, vous débarquez à la banque en lisant tout haut Walt Whitman?
Non, j'ai un peu moins d'audace peut-être au quotidien qu'Angèle, qui effectivement essaie par tous les moyens de reconnecter les gens avec eux-mêmes et qui lit des extraits de poèmes à la banque. Mais non, je le fais pas. Mais je parle souvent aux gens, en fait, comme je sais que on nous empêche de faire la queue devant le Pôle emploi, donc tout est numérisé, tout le monde doit être isolé devant son ordinateur pour que surtout les gens ne puissent jamais se parler, ou en tout cas dans la queue ou ailleurs. Mais ouais, j'essaie de parler le plus possible aux gens, en fait. L'autre jour, je me suis fait voler mon portable à la porte de Montreuil. Et donc, moi, j'ai toujours habité entre le 20e et Montreuil, donc je connais très bien la porte de Montreuil. Et en fait, je suis descendue à Maraîcher, c'était dans le métro, je suis revenue à la porte de Montreuil et j'ai cherché mon portable pendant 2 heures avec tous les gens, je leur ai demandé. Et en fait, je crois que je m'en foutais de le retrouver, mais j'étais juste bien de passer dans ce temps un peu fou où on parle beaucoup du film et où on est très stressé parce que voilà, il y a plein d'enjeux et puis on a envie que ça marche. En fait, moi, j'étais à la porte de Montreuil pendant 2 heures avec tous les loulous et j'étais bien. C'était trop bien.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme 10, quand vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec...
On sera parti de la Révolution pour la faire passer des parents aux enfants et garder en tête la phrase « Le monde, c'est nous qui le faisons ». Judith Davis, son film s'appelle « Tout ce qu'il me reste de la Révolution ». Il est sorti le 6 février en salle. Salif Keïta, son album s'appelle « Un autre blanc ». Il part en tournée. Le 13 avril, il sera à Orléans. Le 16 avril à Paris et puis ce sera Biarritz, Angoulême et Moissac. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Valérie Lavalard et Nadège Antonini. Vous écoutez France Culture. Il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
Ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons livré ce l'amour, la jeunesse, dans les yeux des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.